Très bon réveil à tous. Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Quand les populistes au pouvoir en Italie arrivent à dépasser leurs divergences en se moquant une fois de plus des exigences de Bruxelles, au terme d'un long bras de fer interne, hier soir, les ministres 5 étoiles et ceux de la Ligue d'extrême droite ont décidé de creuser un peu plus le déficit italien en créant un revenu de citoyenneté pour les plus modestes et en baissant les impôts pour les plus aisés.
De nouvelles turbulences sociales chez Ryanair. Les syndicats de personnel navigants appellent à faire grève aujourd'hui et réclament de meilleures conditions de travail au sein de la compagnie aérienne irlandaise à bas coût. La Commission européenne soutient les grévistes.
Elle a eu également une audition d'une intensité rare au Sénat aux États-Unis. Le juge Kavanaugh, choisi par Donald Trump pour entrer à la Cour suprême, a crié son innocence hier quand Christine Blasey Ford, la voix tremblante, l'a accusée d'agression sexuelle. L'État français doit prendre sa part de responsabilité dans la pollution au chlordécone aux Antilles. C'est ce qu'a déclaré hier Emmanuel Macron depuis la Martinique. Focus dans ce journal sur cet insecticide cancérogène et perturbateur endocrinien.
Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais bientôt, les promotions seront limitées dans la grande distribution. Eh bien, cette limitation des promotions liées à la loi agriculture et alimentation profitera-t-elle aux producteurs? C'est la question du jour. On la posera dans une dizaine de minutes, Catherine, à Olivier Mével, qui est maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Bretagne.
Au terme de 5 heures d'intenses négociations à Rome hier soir, les populistes au pouvoir ont décidé de passer outre les recommandations de leur ministre de l'économie et par là même de Bruxelles. Les ministres anti-système 5 étoiles et ceux de la Ligue d'extrême droite ont décidé de creuser le déficit italien à 2,4% sur les 3 prochaines années, là où le précédent gouvernement de centre-gauche tablait lui sur 0,8% pour éviter que l'Italie ne ploie un peu plus sous une dette de 2300 milliards d'euros, 131% du PIB italien, ratio le plus élevé de la zone euro derrière la Grèce. Mais au risque donc d'un vif conflit avec la Commission européenne et d'une flambée des marchés financiers, la coalition populiste a décidé de tenir ses promesses électorales. Baisse des impôts, revenus de citoyenneté pour les plus démunis et système de retraite plus généreux. Budget à fort déficit, suivi à Rome par notre correspondante Mathilde Imberti.
Le Conseil des ministres a approuvé tard dans la soirée un déficit à 2,4% du PIB et sur 3 ans, jusqu'en 2021. Le gouvernement dit du changement rompt littéralement avec la politique de ses prédécesseurs, balayé aussi la proposition du ministre des Finances, un technicien apolitique, qui plaidait pour un déficit à 1,6 afin de rassurer les marchés. La Ligue s'enthousiasme de la baisse des impôts à venir et de la retraite anticipée pour 400 000 Italiens. Les antisystèmes des 5 étoiles fêtent de leur côté le lancement du revenu de citoyenneté 800 euros par mois, versés à 6,5 millions d'Italiens modestes dès l'an prochain. Les activistes du mouvement se rassemblaient hier soir pour célébrer ce qu'ils surnomment le budget du peuple, Luigi Di Maio, leur leader.
Ce sont des mesures historiques et surtout nous commençons à enlever aux puissants pour donner à tous ceux qui se cassent le dos au travail. Nous expliquerons au marché qu'il y a tellement d'investissements avec ce déficit à 2,4% que l'économie se relèvera autant que nous le voulons.
Indépendamment de la réaction des marchés, celle de la Commission européenne risque d'être sévère. Elle attend des gages de réduction de la colossale dette publique italienne, deuxième en Europe après celle de la Grèce.
Bras de fer en vue donc entre Rome et la Commission européenne, Bruxelles déjà sur un autre front, se rangeant du côté des grévistes. Aujourd'hui, chez Ryanair, les personnels navigants de la compagnie aérienne irlandaise à bas coût sont appelés à cesser le travail en Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas et en Allemagne pour réclamer de meilleures conditions de travail ainsi que l'emploi de chaque salarié via un contrat relevant de son pays de résidence, contrairement à la pratique historique de Ryanair d'employer une bonne part de son personnel via des contrats de droit irlandais. Le marché intérieur européen ne doit pas être une jungle, rappelle la Commission européenne à l'orée de cette grève. Les précisions à Bruxelles de Pierre Benazé.
Selon Ryanair, 90% des quelques 2400 vols et 450 000 passagers prévus pour ce vendredi seront épargnés par ce nouveau mouvement de grève. Pour la compagnie aérienne, le mouvement est en perte de vitesse, mais les annulations semblent plus importantes qu'estimées. Pour la seule Belgique, par exemple, 48 vols seraient annulés, alors que la direction en annonce 20 à 25. Dans ce contexte, l'intention des personnels navigants allemands de rejoindre la grève va encore plus peser sur le sort des vols et des passagers. La compagnie a d'ailleurs prévenu qu'elle ne paierait pas la compensation de 250 à 400 euros prévue par les règlements européens, car il s'agit selon elle, je cite, de circonstances extraordinaires. Le directeur général de la compagnie irlandaise, Michael O'Leary, a rencontré avant-hier la commissaire européenne aux affaires sociales. Elle a demandé à Ryanair de respecter la loi européenne, estimant que le marché intérieur n'était pas une jungle, que ce n'est pas la nationalité de l'avion qui compte, mais l'endroit où vivent et travaillent les employés. Le respect du droit social de l'UE ne devrait pas faire l'objet de négociations, selon la commissaire européenne.
Et alors que Ryanair va essuyer une nouvelle grève pan-européenne aujourd'hui, la compagnie low cost annonce l'ouverture de deux nouvelles bases en France, à Bordeaux et Marseille, Annabelle Grelier.
Chez Ryanair, on l'assure, le gouvernement français n'a fait aucun geste pour inciter son retour. Déjà en janvier dernier, la compagnie à bas coût assurait que la réforme du Code du travail était un bon signal et qu'elle envisageait d'implanter quatre bases en France d'ici 2019. Ce sera donc deux pour commencer, à Bordeaux et à Marseille. 400 millions d'investissements sont annoncés, qui comptent en fait le prix des quatre Boeing qu'elle va déployer sur ces deux aéroports. Côté personnel, Ryanair annonce également la création de 120 emplois et la promesse de les embauchés en contrat local. Une promesse de toute façon incontournable puisque le décret Perben les y oblige. C'est d'ailleurs ce droit social français, unique en Europe, plus protecteur, qui avait conduit Ryanair devant les tribunaux en 2010 pour travail dissimulé. Des déboires judiciaires qui ne sont pas terminés puisque le dossier a été renvoyé la semaine dernière devant la cour d'appel de Paris. La donne n'a donc guère changé pour Ryanair en France, mais la rancune n'existe pas en affaires. Ryanair a besoin de se développer. Elle a pour objectif d'atteindre les 200 millions de passagers d'ici 2025. L'ouverture de base dans l'Hexagone est désormais indispensable. Elle va lui permettre d'y faire stationner ses avions et d'offrir plus de fréquences de vol et de meilleurs horaires, notamment pour les premiers vols du matin. Ryanair ne détient que 6% de parts de marché en France, contre 42% pour sa concurrente low-cost EasyJet. Alors qu'Air France est fragilisée, c'est le moment pour Ryanair de mettre les bouchées doubles.
Les syndicats d'Air France demandaient sa tête. Franck Terner, le directeur général de la compagnie aérienne, a démissionné hier, tenu responsable par les syndicats donc du conflit social du printemps dernier. Il sera remplacé par le nouveau patron d'Air France KLM, Benjamin Smith, jusqu'au 31 décembre au plus tard.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Aux États-Unis, la commission judiciaire du Sénat va dire dès aujourd'hui si le juge Brett Kavanaugh peut continuer sa route vers la Cour suprême.
Les 21 parlementaires vont se prononcer dans la matinée avant un vote en séance plénière dans les prochains jours pour décider de l'entrée donc ou non du candidat de Donald Trump à la Cour suprême. Le juge qui pourrait faire basculer la plus haute instance judiciaire aux États-Unis dans le camp conservateur est accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle. 9 heures d'audition hier au Sénat, avec notamment Christine Blasey Ford, une universitaire qui a raconté avoir été agressée dans sa jeunesse par le futur juge Kavanaugh. Elle, la voix tremblante, tout en retenue, lui, a crié son innocence, se posant en homme blessé face au sénateur.
Ma famille a été menacée violemment, mais ça ne me fera pas reculer. Peut-être que vous parviendrez à m'écarter lors du vote final, mais vous ne me ferez pas renoncer. Jamais je suis ici pour dire la vérité. Je n'ai jamais agressé quelqu'un sexuellement, ni au lycée, ni à l'université, jamais.
Le juge Brett Kavanaugh, qui a toujours le soutien de Donald Trump pour entrer à la Cour suprême, enjeu de taille pour la Maison Blanche et pour le camp conservateur Grégory Phillips.
Les Républicains doivent aller vite s'ils veulent installer le juge Kavanaugh à la Cour suprême avant les élections de mi-mandat dans un mois, car ce sera difficile ensuite, voire impossible, si le Sénat, par exemple, venait à changer de majorité. Alors le président Trump met tout son poids dans la bataille. Avant-hier, il disait depuis New York qu'il pourrait peut-être se laisser convaincre par le témoignage de Christine Blasey Ford. Mais hier soir, sur Twitter, Donald Trump a finalement et très clairement pris parti pour le magistrat. Kavanaugh, écrit le président, a montré à l'Amérique pourquoi je l'avais choisi. Son témoignage était fort, honnête et captivant. Les démocrates ont utilisé des processus indignes pour tenter d'empêcher sa nomination. Donald Trump espère donc maintenant que les 11 sénateurs républicains de la commission judiciaire du Sénat voteront tous pour installer ce juge conservateur à la Cour suprême et ainsi la faire pencher un peu plus à droite pour de nombreuses années.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Un attentat terroriste majeur a été déjoué aux Pays-Bas, indique le parquet néerlandais après l'arrestation hier de 7 hommes sous soupçonné de vouloir passer à l'acte lors d'un grand événement afin de faire de nombreuses victimes. D'après le ministère public, les suspects tentaient de se procurer entre autres des kalachnikovs et de quoi fabriquer une bombe pour une voiture piégée. Direction la Slovaquie à présent, où plusieurs suspects ont été arrêtés hier, 7 mois après l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak, tué par balle avec son épouse alors qu'il enquêtait sur les liens entre des membres du gouvernement slovaque et la Ndrangheta, la mafia calabraise. L'enquête avance à Prague, Alexis Rosenzweig.
7 mois après le meurtre du jeune couple, il semble que cette fois la police slovaque soit sur une piste sérieuse avec l'arrestation de plusieurs suspects. L'un d'entre eux serait un ancien policier, selon la presse locale. Tandis qu'un hebdomadaire tchèque précise que les enquêteurs auraient été aidés dans leurs recherches par des images prises au moment du meurtre par un satellite américain. Jan Kuciak travaillait sur les liens entre la politique slovaque et la mafia calabraise Ndrangheta. Son assassinat, puis la publication de ses travaux après sa mort, ont suscité de grandes inquiétudes sur la corruption au plus haut niveau de cet État membre de l'Union européenne et de la zone euro. Avec des manifestations régulièrement organisées depuis, et plusieurs prévues encore ce vendredi, pour réclamer que soient retrouvés également les commanditaires, en plus des auteurs du crime. Contraint à la démission, l'ancien Premier ministre Fico a cédé sa place à un proche, Peter Pellegrini, qui s'est félicité des progrès réalisés dans cette enquête de police.
Emmanuel Macron est attendu en Guadeloupe aujourd'hui pour parler notamment des problèmes d'alimentation en eau et des sargasses, ces algues brunes aux émanations toxiques qui envahissent régulièrement le littoral. Deuxième jour de déplacement aux Antilles, le chef de l'État était en Martinique hier où il a dénoncé, je cite, « le fruit d'un aveuglement collectif à propos du chlordécone, cet insecticide utilisé dans les bananeraies jusque dans les années 90 après son interdiction en métropole, avec des conséquences dramatiques pour les Antillais qui détiennent aujourd'hui le record du nombre de cancers de la prostate. Le chlordécone encore présent dans les sols et dans les nappes phréatiques, Emmanuel Macron a souhaité hier que l'État prenne sa part de responsabilité sur la pollution au chlordécone.
Il est possible d'avancer davantage sur la question des maladies professionnelles pour les personnes particulièrement exposées à la molécule. J'ai demandé à ce titre que les tableaux des maladies professionnelles soient réactualisés en fonction des connaissances scientifiques en priorisant l'impact de la molécule de chlordécone. Et en particulier, toutes celles et ceux qui ont travaillé pendant des années dans le secteur de la banane, on le sait, ont été beaucoup plus exposés à ce sujet. L'INSERM et l'ANSES rendront leurs travaux d'ici mars prochain. Les partenaires sociaux entameront leurs travaux sur la base de ces expertises pour les rendre le plus rapidement possible. La procédure d'ouverture donc du registre des maladies professionnelles sera engagée par le gouvernement dès le 2 octobre pour le régime général des maladies professionnelles et le 9 octobre pour le régime agricole.
Emmanuel Macron au micro de Cyril Graziani. L'autre tête de l'exécutif, Édouard Philippe, faisait face, lui, à Laurent Wauquiez hier soir sur France 2. Le Premier ministre et le président du Parti Les Républicains, issus de la même famille politique, ont marqué leurs différences sur l'immigration ou encore sur les allocations chômage. On y revient dans le journal de 7h30. Le temps de ce vendredi 28 septembre, nuageux, voire brumeux ce matin. Du soleil, ensuite sur tout l'Hexagone. Au meilleur de la journée, les températures seront comprises entre 17 et 25 degrés au nord de la Loire et près de l'Atlantique, comptez de 25 à 32 partout ailleurs.